Quand nous rentrons, nous avons les jambes en coton. J'ai l'impression d'être une bombe à eau abandonnée trop longtemps au soleil. Tout ce que j'ai envie de faire, c'est m'asseoir sous la clim qui crachote dans ma fenêtre pour prendre un grand coup de frais sur la peau en regardant la télé. J'ai trouvé une chaîne de rediff qui ne passe que des vieilles séries des années 1970 et 1980. Quincy, La croisière s'amuse, et 8, ça suffit. Mais avant tout, il y a Hélène Abbott, ma nouvelle émission préférée. Rien de neuf que du vieux. Hélène n'a pas peur de faire des conjectures, croyez-moi. Elle a invité une tripotée de semi-inconnus tirés de mon passé, qui jurent être mes amis, et ils ont tous des choses adorables à raconter sur moi. Même ceux qui ne m'ont jamais tellement aimé. Une tendresse post-mortem. On frappe à la porte, et je sais que ça va être Greta et Jeff. J'éteins la télé, et ils sont sur le perron, désœuvrés. « Qu'est-ce que tu fais ?» demande Jeff. « Je mens. » Je bouquine. Il pose un pack de bière sur le comptoir de ma cuisine et Greta le suit d'un pas léger. Ah, je croyais qu'on avait entendu la télé. Trois, ça fait littéralement une foule dans ces petites cabines. Il bloque la porte pendant une seconde, ce qui m'envoie une onde de nervosité dans l'échine. Pourquoi il bloque la porte? Mais il continue d'avancer jusqu'à ce qu'il bloque ma table de chevet. À l'intérieur, il y a ma ceinture portefeuille garnie de $8,000 en cash. Des billets de 100, de 50 et de 20. La ceinture portefeuille est hideuse, couleur chair et volumineuse. Il m'est impossible de trimballer tout mon argent d'un coup. J'en ai dispersé un peu ici et là dans la cabane. Mais j'essaie d'en garder la plus grande partie sur moi, et quand je le fais, je suis aussi obsédée par la ceinture que si j'étais une ado avec une serviette hygiénique maxi à la plage. Quelque part, j'éprouve un plaisir pervers à dépenser l'argent, parce que chaque fois que je claque une liasse de billets de 20, ça fait moins d'argent à cacher et à craindre de perdre ou de me faire voler. Jeff allume la télé, et Hélène Abbott et Amy apparaissent à l'écran. Il hoche la tête, se sourit à lui-même. « Tu veux regarder, Amy ?» demande Greta. Je ne sais pas si elle a utilisé une virgule. « Tu veux regarder, Amy ?» ou « Tu veux regarder, Amy ?» Non, Jeff. Pourquoi tu vas pas chercher ta guitare? On pourrait s'installer sous le porche. Ils échangent un regard. « Oh, mais c'est que tu regardais, non ?» dit Greta. Elle indique l'écran. C'est Nick et moi à un gala de bienfaisance, en robe de soirée, avec les cheveux tirés en chignon. Je ressemble plus à mon apparence actuelle avec les cheveux courts. C'est chiant, je fais. « Oh, moi, je trouve pas ça chiant du tout, » dit Greta en se laissant tomber sur mon lit. Je me dis, quel imbécile je suis d'avoir laissé rentrer ces deux-là, d'avoir supposé que je pouvais les contrôler, alors que ce sont des créatures sauvages, des individus habitués à trouver l'angle d'attaque, à exploiter les faiblesses, toujours dans le besoin. Tandis que c'est nouveau pour moi, le besoin. Ces gens qui gardent un puma dans leur jardin et un chimpanzé dans leur salon, ça doit être ça qu'ils éprouvent au moment où ils se font éventrer par leur adorable petite bête. Vous savez quoi? Ça vous dérangerait de... Je suis un peu patraque, trop de soleil, je crois. Ils ont l'air surpris et un peu vexés, et je me demande si j'ai mal interprété la situation. Peut-être sont-ils inoffensifs et moi paranoïaque. J'aimerais le croire. Ok, ok, pas de problème, dit Jeff. Ils sortent de ma cabane, d'un pas traînant. Jeff prend sa bière au passage. Une minute plus tard, j'entends la voix hargneuse d'Hélène Abbott qui s'élève de la cabane de Greta. Les questions accusatrices. Pourquoi a-t-il? Pourquoi n'a-t-il pas? Comment peut-on expliquer? Mais qu'est-ce qui m'a pris d'aller sympathiser avec d'autres locataires? Pourquoi je ne suis pas restée dans mon coin? Comment puis-je expliquer mes actes si je suis découverte? Je ne peux pas être découverte. Si on me retrouvait, je deviendrais la femme la plus honnie de la planète. De la belle femme aimante et aimable, enceinte et victime d'un salaud égoïste et infidèle, je deviendrais la poufiasse aigrie qui a exploité le bon cœur de tous les citoyens d'Amérique. Hélène Abbott me consacrerait toute une série d'émissions. Elle laisserait la parole aux téléspectateurs qui appelleraient pour crier leur haine. C'est un nouvel exemple de pauvre petite fille riche qui fait ce qu'elle veut, quand elle veut, sans se soucier de ce que peuvent ressentir les autres. Je trouve qu'elle devrait disparaître une fois pour toutes, dans une cellule de prison. Comme ça, c'est comme ça que ça se passerait. J'ai lu des informations contradictoires sur Internet, sur les peines encourues à simuler sa mort ou à faire accuser de meurtre son époux pour la dite mort. Mais je sais que l'opinion publique serait brutale. Je pourrais faire ce que je voudrais après ça, nourrir des orphelins, embrasser des lépreux. Mais quand je mourrais, on me connaîtrait comme la femme qui avait simulé sa mort pour faire accuser son mari. Vous vous rappelez? C'est uniquement ce qui resterait. Je ne peux pas me permettre une chose pareille. Quelques heures plus tard, je suis toujours réveillée. Je réfléchis dans le noir. Lorsqu'on cogne doucement à ma porte, discrètement. C'est Jeff. J'hésite. Puis j'ouvre, prête à m'excuser pour mon comportement. Il tire sur sa barbe, perdu dans sa contemplation de mon paillasson. Puis il lève sur moi ses yeux couleur ambre. « Dorothy m'a dit que tu cherchais du boulot, » dit-il. « Ouais, je suppose, j'en cherche. J'ai un truc ce soir. Ça te rapportera $50. Amy Elliott Dune ne quitterait pas sa cabane pour $50. Mais Lydia et ou Nancy a besoin de boulot. Je suis forcée de dire oui. 2 heures, $50. Il hausse les épaules. Moi, ça m'est égal, mais je voulais te le proposer. C'est quoi? De la pêche. J'étais persuadée que Jeff conduisait un pick-up, mais il me guide à une Ford à haillons rutilantes. La voiture d'un jeune diplômé désargenté plein de grands projets, pas la voiture que devrait conduire un adulte. Je porte mon maillot de bain sous ma robe, comme il me l'a demandé. Pas le bikini, le une pièce, celui avec lequel tu peux vraiment nager, a annoncé Jeff. Je ne l'avais pas remarqué près de la piscine, mais il connaissait par cœur ma garde-robe aquatique, ce qui était à la fois flatteur et inquiétant. Il laisse les vitres baissées tandis que nous conduisons à travers les collines boisées. La poussière de la route recouvre mes cheveux courts et épais. On se croirait dans un clip de country. La fille en robe qui se penche par la fenêtre pour profiter de la brise d'une nuit d'été dans l'Amérique profonde. Je regarde les étoiles. Jeff fredonne par intermittence. Il se gare à l'entrée de l'allée qui mène à un restaurant perché sur des pilotis au-dessus du lac. Un grill connu pour ses énormes gobelets de boissons alcoolisées au nom vaseux, jus d'alligator et blitz de perche. Je le sais par les gobelets abandonnés qui flottent le long des rives du lac, fendus et colorés du logo fluo du restaurant. Catfish Carl's. Le Catfish Carl's a un ponton au-dessus de l'eau. Les dîneurs peuvent se charger de poignées de croquettes pour chats dans les broyeuses à manivelle et les jeter dans la bouche béante de centaines de poissons-chats géants qui attendent en dessous. On va faire quoi exactement, Jeff? Tu les prends au filet, je les achève. Il sort de la voiture et je le suis au coffre qui est rempli de glacières. On les met là-dessus, sur la glace, et on les revend. On les revend? Qui va acheter du poisson volé? Jeff fait son sourire de chat paresseux. J'ai une espèce de filière. Et soudain, je réalise. N'est pas un écolo pacifiste à la Grizzly Adams, qui joue de la guitare et tout ça. Pas du tout. C'est un plouc voleur qui veut se croire plus complexe qu'il n'est. Il sort un filet, une boîte de croquettes pour chat 9 lives et un seau en plastique sale. Je n'ai pas la moindre intention de prendre part à cette économie piscicole illégale, mais je suis assez intéressée. Combien de femmes peuvent dire qu'elles ont fait partie d'un gang de voleurs de poissons? Je suis partante. Je suis de nouveau partante depuis que je suis morte. Toutes les choses que je détestais ou craignais, toutes les limites que j'avais, elles m'ont glissé dessus. Je peux faire pratiquement n'importe quoi. Un fantôme a cette liberté. Nous descendons la petite colline, passons sous le ponton du Catfish Carls et sautons sur les docks, qui flottent avec un bruit de succion dans le sillage d'un bateau qui passe. Jimmy Buffett à fond. Jeff me tend un filet. Il faut qu'on soit rapide. Tu sautes dans l'eau, tu plonges le filet, tu chopes les poissons, puis tu soulèves le filet vers moi. Ce sera lourd. Et ils vont gigoter, hein. Alors prépare-toi. Et ne crie pas ni rien. Je ne vais pas crier. Mais je ne veux pas aller dans l'eau. Je peux faire ça du bord. Tu devrais enlever ta robe au moins. Tu vas la bousiller. Ça va. Il a l'air agacé pendant un instant. C'est le patron, je suis l'employé. Et jusque-là, je ne l'écoute pas. Mais très vite, il se détourne pudiquement et enlève son t-shirt. Il me passe la boîte de croquettes sans me faire totalement face, comme par pudeur. Je tiens la boîte avec son ouverture étroite au-dessus de l'eau, et immédiatement une centaine de dos arqués et luisants roulent vers moi, une bande de serpents, la queue fendant furieusement la surface de l'eau. Puis, les bouches sont au-dessous de moi. Les poissons se bousculent pour avaler les boulettes, et comme des animaux dressés, ils tendent la bouche vers moi pour la prochaine ration. Je plonge le filet au milieu du banc de poissons et je marque bout sur le ponton pour renforcer ma prise et lever la récolte. Quand je tire, le filet est plein d'une demi-douzaine de poissons-chats, glissants et moustachus, qui tentent tous frénétiquement de regagner l'eau. Leurs lèvres énormes s'ouvrent et se ferment entre les mailles de nylon, et leur agitation collective fait vaciller le filet de haut en bas. « Tire ! Tire, ma grande !» Je pousse un genou sous la poignée du filet et je le laisse pendre là. Jeff met les mains dedans et attrape un poisson de ses deux mains, toutes deux couvertes de gants éponges pour améliorer sa prise. Il glisse ses mains autour de la queue, puis abat le poisson comme un gourdin, écrasant sa tête sur le côté du quai. Le sang jaillit. Une brève giclée vient fouetter mes jambes, un morceau de chair plus dur atterrit dans mes cheveux. Jeff jette le poisson dans le seau et en attrape un autre avec la régularité d'un travailleur à la chaîne. Nous travaillons avec des grognements et des sifflements pendant une demi-heure, quatre filets pleins, jusqu'à ce que mes mains deviennent glissantes et que les glacières débordent. Jeff prend le seau vide et le remplit d'eau du lac, qu'il verse sur les entrailles gluantes et dans les enclos à poissons. Les poissons-chats gobent les tripes de leurs camarades déchus. Le ponton est propre. Il verse un dernier seau d'eau sur nos pieds pleins de sang. Pourquoi t'es obligé de les écrabouiller? Je ne peux pas supporter de voir une bête souffrir. Tu veux piquer une tête rapide? Ça va, merci. Non, tu peux pas monter dans ma voiture comme ça. Viens, on va piquer une tête. Tu te rends pas compte de la crasse que t'as sur toi. Nous quittons le ponton et courons vers la plage de galets un peu plus loin. Tandis que j'entre péniblement dans l'eau jusqu'aux chevilles, Jeff court à grande foulée dans l'eau et se jette en avant en papillon. Dès qu'il est assez loin, je détache ma ceinture portefeuille et l'enroule dans ma robe bain de soleil, la pose sur le bord de la plage avec mes lunettes dessus. Je me baisse jusqu'à sentir l'eau tiède toucher mes cuisses, mon ventre, mon cou. Puis je retiens ma respiration et plonge la tête. Je nage loin et vite. Je reste sous l'eau plus longtemps que je ne devrais, afin de me rappeler ce que ça ferait de se noyer. Je sais que je pourrais le faire en cas de nécessité. Et quand je sors la tête avec un unique soupir discipliné, je vois Jeff qui se hâte vers la rive, et je dois nager aussi vite qu'un marsouin pour récupérer ma ceinture portefeuille et me hisser sur les galets juste avant lui.